6-9 du week-end sur France Inter.
Et à 8h10, Patricia Martin, votre invité à présent, l'écrivain Andrei Makin, pour son dernier livre, L'ami arménien, publié chez Grasset.
Bonjour Andrei Makin.
Bonjour.
Le souvenir de cet ami arménien est si vif dans votre mémoire, et pourtant c'était il y a longtemps, si vous permettez que je dise ça, puisque vous aviez, vous, 13 ans, lui avait un an de plus. Vous teniez à lui rendre une sorte d'hommage.
Il a vécu longuement en moi, et ce livre d'ailleurs, il n'a rien d'actuel, vous voyez, d'actualiste en tout cas, parce que le manuscrit, je l'ai transmis à mon éditeur il y a un an déjà. Mm-hmm. Et souvent on parle de l'actualité brûlante, on oublie que la guerre en Arménie dure depuis plus de 30 ans déjà. On a poussé, bien sûr, c'est tout à fait normal, quelques soupirs d'usage, quelques larmes rituelles, mais je pense qu'on aurait pu intervenir un peu avant. Et pour moi, c'est rendre hommage, oui, mais surtout ne pas le laisser dans un oubli total où même les traits humains disparaissent.
À travers lui, c'est aussi le peuple arménien que vous voulez...
Mais c'est ça le paradoxe, parce que finalement, vous savez, que, je ne sais pas, vous arrivez demain en Russie, vous devenez la Française, vous voyez, quelque part au fond fin de la Russie, vous devenez la personnification de la France. Et d'habitude, ceux qui personnifient un pays, un étranger qui personnifie son pays, d'habitude c'est un homme d'État, c'est un chef d'armée, je ne sais pas, Napoléon ou De Gaulle. Et là, il s'agissait d'un enfant très fragile, d'un enfant atteint de cette maladie dite arménienne. Oui, enfin, c'est une maladie génétique, héréditaire, on appelle ça une maladie périodique. Et donc, cet enfant fragile, il portait sur ses frêles épaules le destin de son peuple. C'est ça qui était paradoxal. Et au début, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est à contre-temps, il symbolise son peuple. Et je me suis dit que finalement, non. Il avait cette force en lui, cette force intérieure, en même temps cette fragilité qui le condamnait. Et peut-être c'est le destin du peuple arménien tout entier. Être très fort, très résistant, un peuple, une civilisation très ancienne. Une civilisation presque, j'allais dire, antédiluvienne, étant donné qu'on a retrouvé, paraît-il, les vestiges de l'Arche de Noé dans ce pays. Mais même sans aller, si vous voulez, jusqu'à cette antiquité très lointaine, voyez-vous, Yerevan, la capitale de l'Arménie, est plus ancienne que Rome. Donc là, on voit la perspective de ce grand pays, de cette grande civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je pensais que l'étrangeté de cet enfant, de Vardan, de mon ami...
Alors comment prononce-t-on en fait ?
En russe, on dit Vardan, on prononce le N, il n'y a pas de son naso, donc on prononce Vardan. Et je me disais que son étrangeté, sa singularité était liée à l'ancienneté de cette civilisation, à ce décalage culturel et historique. Et c'est plus tard, bien plus tard, que j'ai compris que finalement, son étrangeté, elle était beaucoup plus profonde et plus prégnante. Car je pense que Vardan, il avait un regard qui refusait la comédie humaine, ce cirque d'hostilité, de haine, enfin, toutes nos futilités. Il vivait dans un autre temps, c'était un extraterrestre.
Et vous parliez tout à l'heure de sa fragilité. Il y a une très belle scène à un moment donné où il vous montre le ciel de ses doigts graciles. Et vous, finalement, ça, on se dit que ça bouleverse votre vie et peut-être votre vision du monde, parce que regarder le ciel, ça évite de voir la boue. Mais
si on pouvait voir la boue, parce que le roman est extrêmement charnel et il est très réaliste en même temps, c'est pas un conte de fées, tant s'en faut.
Mais des vies sacrifiées sous la hache des faiseurs de l'histoire.
Oui, mais quand vous dites, oui, le ciel commence sous nos semelles. C'est ça, cette révélation qui m'a beaucoup remué. Et je me dis, et Dieu dans tout cela? Comme disait Chancel, n'est-ce pas ? Notre regretté Chancel, et Dieu dans tout cela. Et finalement, c'est cette question-là qu'on se pose. Mais si le ciel commence sous nos semelles, parce que c'est le même air, la même atmosphère. Donc, il y a quelque chose de pratiquement métaphysique dans la révélation que j'ai faite grâce à cet enfant qui n'allait pas survivre.
Vous vous êtes connu dans un orphelinat, en fait. Vous étiez...
À l'école, oui.
À l'école.
Lui n'était pas orphelin.
Mm-hmm. D'ailleurs, vous connaissez sa famille. Mm-hmm. Là aussi, il y a... des personnages extraordinaires, notamment sa mère, pour laquelle il y a une fierté aussi d'être arménienne.
Oui, mais ce n'était pas un orgueil nationaliste.
Non,
oui,
la frontière
passait justement là. Cette femme, Shamiram, elle était tout à fait consciente justement du poids de cette histoire, de ces drames arméniens, de ces blessures de l'Arménie. C'était un très grand roman historique que l'écrivain Abovian a écrit, Les blessures de l'Arménie. Mais d'abord, elle ne faisait jamais montre de ses souffrances. Mmh. Vous savez, c'était des gens très discrets, justement. Ils ne se répandaient jamais en pleurnicherie concernant le génocide arménien. Je n'ai jamais entendu, d'ailleurs, dans leur bouche, le mot de génocide. Ça n'a jamais été prononcé. Mais quand ils parlaient, et quand ils ont fait ces aveux, et c'est surtout Vardan qui me les avait fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils parlaient des gens concrets. C'était deux familles arméniennes dont il a décrit le calvaire. Et pour moi, si vous voulez, ce n'était pas une vue de l'esprit, le génocide. Comme on parle en général, vous voyez, presque, ça devient presque un sujet mondain. Tandis que c'était terminé, une petite fille qui tenait sa poupée sur une photo dans ses mains, et on l'a retrouvée grâce à cette poupée dans un désert où ses Arméniens sont morts.
Et le thé qui est servi dans une casserole, ça aussi c'est un geste quotidien et qui pourtant signifie beaucoup.
C'était une verseuse. Enfin, au début, elle servait son café dans ce magnifique récipient et qui en disait long sur l'ancienneté, presque l'ancienneté artistique de la culture arménienne, parce qu'on voyait cette aiguillère, c'est magnifique. Moi, je pensais que c'était une vase, tout simplement, en argent, très patinée. Et après, ils ont commencé à vendre ces objets de valeur, tout simplement pour survivre.
Mmh. Mmh. Vivre dans un pays, Andriy Makin, où la vie, finalement, ne vaut pas grand-chose, au fond, ça ne s'efface jamais.
Oui. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un pays où la vie humaine, aujourd'hui, vaut beaucoup? Voyez-vous, quand je pense à ce professeur décapité en France, dans un pays quand même, écoutez, plus ou moins prospère, enfin pas pour tout le monde, quand je pense aux petits jeunes enfants de 5 ans, exterminés dans une école de Toulouse, voyez-vous, si ça s'était passé en Sibérie, j'aurais maudit ce pays. J'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il y a des enfants qui tombent à fusillés à bout portant. Non, ça se passe en France.
Éric?
Andriy Makin, je rappelle que vous êtes franco-russe. À propos de Vladimir Poutine que vous venez de citer, et après 20 ans de pouvoir quasi absolu, voilà que quelques signes d'usure apparaissent chez Vladimir Poutine. Une popularité qui est en baisse. Alors certes, la majorité de la population russe le soutient encore, mais est-ce un soutien par défaut, un soutien par peur de dire autre chose?
Mais vous avez très bien défini la situation. Par défaut, les Russes ont peur de soubresauts. Ils en ont vécu trop dans les années 60, dans les années 90, n'est-ce pas? C'était une époque noire pour la Russie. Et tout le monde ici en Occident adorait Yeltsin et Gorbatchev. Mais il fallait venir à Moscou dans les années 90 pour comprendre la ruine de ce pays. Et donc, Poutine, bien sûr, il apparaît comme quelqu'un qui a mis fin à cette période. Et ça, c'est son côté positif. Maintenant, que les Russes ne soient pas tous d'accord avec sa politique, c'est un fait. Mais quand même, la majorité...
Peuvent-ils le dire? Toujours pas.
Mais attendez, regardez les médias sur Internet aujourd'hui qui ont une très grande importance. Mais il y a des caricatures, il y a des parodies sur Poutine, il y a un verbe tout à fait libéré sur ces réseaux sociaux. Autrefois, bien sûr, n'importe quelle personne serait envoyée en Sibérie.
Ouais. Et vous parliez des années 90, on rappelle que c'est en 1987, Andrei Makine, que vous avez demandé, vous êtes venu en France au cours d'un voyage et que vous avez demandé donc l'asile politique et que vous avez écrit tout de suite en français le testament français, prix Goncourt, prix Goncourt des lycéens et prix Médicis.
Ce n'était pas si rapide, il y a eu quatre romans avant.
Oui, mais enfin bon, ça passe vite quand même. Andrei Makine, merci. L'ami arménien, donc, est publié chez Grasset. Merci beaucoup.